Bonsoir, comment allez-vous? Mais je comprends pas, c'est à qui de passer là? Il m'a grillé lui ou bien? Il y avait un carrefour ici, deux routes se croisaient, c'était simple. Si l'autre venait de la droite, tu le laissais passer, s'il venait de la gauche, tu passais, c'est tout. Ils ont mis un rond-point. Je ne sais pas qui a la priorité, celui qui vient de la droite ou celui qui tourne déjà. Ouais, alors t'es gentil, tu me réponds pas, c'est simple quand je te dis je comprends pas. Si c'était simple, je comprendrais. Alors t'es en train de me traiter d'idiote. Quel panneau? Où t'as vu un panneau toi? Ah, j'avais jamais fait attention. Mais je sais même pas ce qu'il veut dire de toute façon ce panneau. Écoute, on s'en fout que je l'ai appris ou pas au code. Et ce que je te demande, moi, les affluents de la Garonne, bah tu les as appris, tu les sais plus. Bah moi, c'est pareil pour les panneaux. Je te donne raison pour une fois. Je ne les sais pas parce que je ne m'en sers pas. Et je rajoute, si je ne m'en sers pas, c'est qu'ils ne servent à rien, voilà. Pardon, mais je vois pas de panneau qui me dit qui doit passer. Tu le vois ce panneau-là, avec le 3 et le O? Eh bien, il est nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? 30 à l'heure, bien sûr, et pourquoi pas rouler en marche arrière pendant qu'il y est? Mais ce que les hommes sont crédules? C'est ça, c'est la marmotte qui plie le papier qui a dessiné le panneau. Ah non. Ah, mais si, je sais. Ça explique tout pour le rond-point. Ça veut dire, tu t'arrêtes, tu comptes jusqu'à 3, et go! C'est ça, le haut. Fallait y penser.
Bonjour, je m'appelle Sharon, j'ai 15 ans, et j'aimerais savoir comment on fait pour créer un nouveau panneau de signalisation qui n'existe pas avant. Merci, au revoir.
Bonjour Sharon et merci pour cette question. Jacques Nouvier, vous êtes l'auteur de la signalisation routière en France de 1946 à nos jours chez AMC Édition. Alors elle demande comment on fait pour créer un nouveau panneau de signalisation.
Aujourd'hui, il y a à peu près 500 modèles de panneaux et de panonceaux et on en invente encore.
C'est
on en invente encore tout simplement parce qu'il y a de nouveaux besoins. Donc dans tous les cas, quand il y a un besoin qui est identifié, on doit se poser la question: est-ce qu'un panneau qui répond à la question existe déjà, oui ou non, dans la Convention de Vienne? Donc c'est une convention qui a été signée en 1968 à Vienne et qui a été complétée à Genève en 1971.
Et qui gère toute la signalisation en Europe?
Non, qui gère la signalisation dans les pays signataires. Donc la Chine, par exemple, a cette signalisation-là. Et donc le principe de la convention, c'est le suivant. Quand il y a un signal qui existe déjà dans la convention, eh bien, on peut pas en inventer un autre. Quand il n'y a pas de signal dans la convention, on a le droit d'en créer un autre. Et par contre, on n'est pas obligé d'adopter tous les panneaux qui sont dans la convention. En France, par exemple, il y a un panneau qu'on appelle, nous, le manchot à un bras, c'est les carrefours asymétriques, qu'on a refusé d'adopter. Et c'est tout à fait notre droit. Alors, imaginons qu'un panneau n'existe pas dans la convention. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, à quelle catégorie de panneau se rattache-t-il? Ce que je veux faire, est-ce que c'est une prescription, un danger, une indication? Donc ça va nous donner déjà la forme et la couleur du panneau. Et puis après, deuxième phase, quelle est l'idée qu'on veut faire passer? Et là, je vous prends un exemple. Quand on a créé le panneau pour contourner les îlots, vous savez, cette grosse flèche qu'on appelle la balise J5, cette grosse flèche blanche sur fond bleu. Eh bien, on a dit au designer, regarde, l'agent de police, il fait ça. Et donc, le designer, il a reproduit le geste de l'agent de police de manière très stylisée, évidemment. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait le dessin avec un certain nombre de variantes. Et ces variantes, on les teste avec ce qu'on appelle un tachytoscope, c'est-à-dire quelque chose où on passe les images à toute allure comme ça devant les yeux des gens qu'on a réunis pour l'occasion, et on voit ce qu'ils arrivent à comprendre et à quelle vitesse ils le font. Et puis, une fois que c'est passé, ça, on installe quelques panneaux sur le terrain et on fait des derniers ajustements. Alors, une fois que ce panneau il nous satisfait, eh bien, on va dire aux autorités compétentes qu'on a inventé un nouveau panneau, c'est quand même la moindre des choses, et qu'on voudrait qu'il soit intégré dans la Convention de Vienne. Parce que cette convention est révisée périodiquement. Et savez-vous qui gère ça? Ce sont les Nations Unies.
Ah non, je ne peux pas tout savoir.
Ce sont les Nations Unies. Et donc, moi, je suis allé personnellement souvent aux Nations Unies pour discuter de ces questions de signalisation. Alors, une des difficultés, c'est que la convention est signée en trois langues. En russe, en anglais et en français. Donc moi, j'avais l'habitude de travailler simultanément sur la version française et la version anglaise, sauf qu'à un moment, on a eu un président russe qui, lui, ne regardait que la version russe. Ce qui était quand même un petit peu compliqué. Voilà, j'en dis pas plus. Et puis, donc, la convention donc évolue, mais assez lentement, mais pas seulement parce qu'on est en Suisse, quand même. Il y a d'autres raisons.
Et voilà l'histoire des panneaux. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants nous posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Ça fait un moment que Béatrice Compagnon est venue au Petit Bateau. Vous trouverez l'actualité de ses livres sur le site justement des Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Eve, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi les rois de France
Bonsoir Ève. Alors Béatrice Compagnon, la question d'Ève porte sur les rois de France. Portaient-ils des perruques? C'est ce qu'on voit dans les livres, mais est-ce que c'est vrai?
Alors Ève, tout d'abord, tous les rois de France n'ont pas porté une perruque. Ils en ont porté qu'à partir du XVIIe siècle. Durant tout le Moyen-Âge, l'Église interdisait de porter des perruques, car c'était faire péché d'orgueil et de vanité. Alors le premier roi à porter une perruque va être Louis XIII, fils de Henri IV. Louis XIII est très jeune, atteint d'une maladie qui va lui faire perdre ses cheveux. Et pour cacher qu'il devient chauve, il décide de porter une perruque à longs cheveux. Et comme le roi est à cette époque un modèle pour toute la cour, les jeunes courtisans vont décider eux aussi de porter des perruques. Bien que l'Église l'interdise toujours, c'est que la société avait changé depuis le Moyen-Âge. Alors que le modèle du Moyen-Âge était le modèle du chevalier guerrier, un autre modèle de noble apparaît, celui du courtisan au service du roi. Les hommes se civilisent. Donc, peu à peu, ils vont acquérir des bonnes manières. Ils évitent de rôter en public, de se curer les dents, ou par exemple, de plonger ses mains dans l'écuelle du voisin de table. Ouais. La mode, d'ailleurs, va s'étendre à tous les nobles, au point que cela vient choquant de sortir à l'époque sans perruque. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a l'hygiène. À cette époque, on ne se lavait jamais les cheveux.
Ah, c'était dégoûtant.
C'est-à-dire que les poux pullulaient dans les chevelures. Et le fait donc de se raser la tête et de porter une perruque évitait ce fléau des poux. Ensuite, par commodité. Comme les coiffures étaient très longues à réaliser et abîmaient les cheveux, notamment quand on prenait des fers brûlants pour les faire friser, c'était plus pratique de porter des perruques. Enfin, il y a une troisième raison, c'est la volonté de se distinguer. Et la perruque était comme un élément de costume, c'était un élément du paraître. Et toute la cour à cette époque était fondée sur le paraître. Et Louis XIV, qui avait un goût donc, du luxe et de la grandeur, considérait d'ailleurs la parure comme un instrument au service du rayonnement de la cour et du royaume de France dans toute l'Europe. Et c'est Louis XIV qui va créer l'étiquette de la perruque, c'est-à-dire tout un ensemble de règles très strictes. Ainsi, il employait 5 perruquiers pour lui tout seul.
Oh là.
À côté de sa chambre à coucher, il avait un cabinet à perruques dans lequel étaient soigneusement rangées toutes les perruques. Et il pouvait en changer jusqu'à 10 fois par jour. Alors il y en avait une pour la messe, une autre pour la chasse, une autre pour la promenade, une pour le bal, une pour le dîner.
Mais on ne devait pas être bien là-dessous en été, par exemple.
Non, ça devait devenir très chaud.
Ouais.
Et ces perruques coûtaient des fortunes.
Elles étaient
oui, exactement faites en cheveux, enfilées un par un sur une peau très fine de chevreau, de chamois ou d'agneau. Donc les formes des perruques vont plus ou moins changer, plus ou moins volumineuses, plus ou moins frisées, parfois poudrées de blanc, comme sous Louis XVI, mais elles dureront jusqu'à la Révolution de 1789. La perruque poudrée représente alors tellement la royauté que les révolutionnaires vont en interdire le port.
Ça a dû mettre un tas de gens au chômage.
Il y avait près de 300 perruquiers donc sur toute la France. Et donc, il y avait les perruques faites en vrais cheveux, mais il y avait aussi les perruques, donc nettement moins chères, qui étaient faites en crin de cheval.
Voilà, merci pour toutes ces informations, Béatrice Compagnon, spécialiste de l'histoire et de l'éducation. Allez, vous allez deviner la chanson qui va suivre, « Dépêche-toi en 8 lettres ».« Dépêche-toi en 8 lettres ».
Quand on ne joue plus les marlous, je n'ai pas revu Cabalou. Rien n'a plus, rien n'a plus vraiment le même goût. Viviane Gleig a les cheveux blancs, elle regrette le noir et blanc. Pour autant qu'en emporte le vent. Wow, wow, wow. Seigneurita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Seigneurita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma, on a fermé la l'Alhambra. Brando voudrait bien retenir un tramway nommé Désir. Hollywood ne veut pas mourir. Marilyn aurait 50 ans, James Dean n'est plus un géant. Rien n'est plus vraiment comme avant. Wow, wow, wow. Seigneurita, dépêche-toi, je sens qu'il est bien tard déjà. Quand ma guitare a sous mes doigts.
comme au cinéma. Tu sais, ça n'existe pas. Randonné plus sur sa moto, il se meurt dans un tango, retenant le dernier sanglot. Tous les Indiens sont en VO à l'ouest du Rio Bravo. Rien ne va plus, même chez les gringos. Oh, oh, oh. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Señorita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma, on a fermé l'Alhambra. Señorita, dépêche-toi, j'ai oublié les
à Dépêche-toi en Huilette, vous aviez répondu Señorita, et bien vous avez tout bon, Christophe, ça ne se présente plus.
Les petits bateaux sur France Inter.
Je vous recommande chaudement le livre d'Hervé Témim.
Bonjour, je m'appelle Adèle, j'ai 5 ans, je voudrais savoir combien de gens sont en prison. Merci, au revoir.
Bonsoir Adèle, c'est une jolie et intéressante préoccupation. Maître Hervé Témim, combien de gens sont en prison? Vous avez écrit Secret Défense, édité chez Gallimard, ça c'est pas un secret.
Écoutez, Adèle, tu me poses cette question et en arrivant pour te répondre, j'ai entendu sur France Info le chiffre de la population carcérale, ou en tout cas au 31 janvier 2021, et il y avait 62 600 personnes en prison en France. C'est beaucoup trop, c'est un peu moins qu'il y a quelques mois, mais c'est énorme. Il y a un taux d'occupation des établissements pénitentiaires, c'est-à-dire des prisons par rapport à ce qu'elles devraient pouvoir supporter, qui est de 124%, peut-être est-il de 123,5% après cette très légère diminution de ce mois-ci. Mais ça veut dire qu'il y a un quart de personnes qui sont en prison et qui sont en surpopulation carcérale.
Vous qui maniez les chiffres, Hervé Témim, avec aisance, moi je me rends pas compte, plus de 60 000, ça fait quoi, une petite ville?
Ah, plus de 60 000, ça fait une ville moyenne, plus qu'une petite ville. Et je vais vous dire, ce qui est le plus grave, c'est que, d'abord, l'état des prisons n'est pas acceptable. Il n'est pas digne de la France et il n'est pas digne de ce qu'on doit aux personnes qui y vivent. Et puis en plus, ce qui est terrible, c'est qu'à la limite, on va pas entamer un débat sur la prison, mais qu'on soit en prison parce qu'on a été condamné, pourquoi pas? Mais on est aussi en prison avant d'avoir été condamné, en détention provisoire, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire avant d'avoir été jugé. Et ce qui est fou, c'est que le nombre des gens qui sont en prison avant d'avoir été condamné est de l'ordre de 20 000. C'est-à-dire presque un tiers de la population carcérale.
Mais alors sur ces 20 000, Maître Témim, qui n'ont pas encore été jugés, il va y en avoir 18 000 qui seront jugés coupables et qui vont poursuivre leur peine et 2 000 qui vont être libérés, ou la moitié, ou quel est le pourcentage?
Alors, franchement, cette statistique, elle n'est pas disponible. On peut penser que beaucoup vont être condamnés, beaucoup finiront avec une condamnation, hein, parce qu'il y en a qui sortiront avant d'être jugés et qui seront condamnés ou pas. Il y en a qui resteront en prison jusqu'à leur jugement et qui seront condamnés ou pas. Mais je vous dis pas qu'il faut interdire la détention provisoire. Il y a des affaires extrêmement graves dans lesquelles personne ne comprendrait comment il est possible que des personnes qui sont accusées de faits aussi graves et qui parfois les ont reconnus soient en liberté. Je dis pas ça. Mais je dis simplement que, ne serait-ce que pour des raisons de pure équité, de pure justice, pour éviter justement que des gens qui ne seront pas condamnés aient pu faire ne serait-ce qu'un jour de prison. Parce qu'un jour de prison dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est quelque chose qui est irréparable. En tout cas, qui ne s'oublie pas et qui laisse des traces souvent très lourdes. Eh bien, on doit essayer de réduire au maximum le nombre de ces personnes qui sont en prison et qui n'ont pas été condamnées. Et il faut réduire au maximum le taux de personnes en détention provisoire. Et donc, durcir au maximum les conditions dans lesquelles on peut y aller.
La justice est trop lente,
C'est pour ça qu'il reste si longtemps.
La justice est trop lente, la justice est parfois trop rapide à prendre des décisions avant d'être d'une lenteur parfois désespérante pour arriver à son terme. En tout cas, moi je peux vous dire que en tant qu'avocat, je sais que le placement en détention provisoire, quand il est discutable, et c'est très souvent le cas, c'est quelque chose qui fait très 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 mal. Et je pense que les grands juges, et j'en ai rencontré beaucoup, sont des juges qui sont capables de prendre leurs responsabilités, de ne pas placer en détention, par exemple, des gens qui n'ont pas à y aller. Et surtout, je crois qu'on fait un faux procès à la justice, qui est celui du laxisme. On a l'impression que les policiers font leur boulot, et puis qu'ils présentent des gens à la justice qui les relâchent sans raison. Il y a des cas où ça arrive, mais c'est pas du tout le cas...
C'est le café du commerce.
Absolument.
Vous avez prononcé cette phrase de Maître Temim qui va en choquer quelques-uns à propos des mauvaises conditions de détention. Ça ne correspond pas à ce qu'on leur doit. La société doit à des malfaiteurs ?
La société, elle doit peu à des malfaiteurs, mais elle leur doit un minimum. Vous savez, le président Giscard d'Estaing, qui n'était pas vraiment un homme laxiste, avait dit « La prison, ça doit être la privation de la liberté ». Mais que la privation de la liberté. Voilà ce qu'on doit aux détenus, et donc ils méritent quand même d'être traités dignement.
Je vous ai recommandé le livre de Maître Temim, parce que d'abord il sait écrire, ce qui n'est pas fou pour un avocat. Ensuite, parce qu'on pénètre dans un univers fermé, sans jeu de mots, nous n'avons pas accès, enfin moi qui ne suis pas magistrat ni avocat, je n'ai pas accès à cet univers. Et il m'intéresse d'autant plus qu'il défend des gens qui ne me sont pas a priori sympathiques. Pour les gens qui sont sympathiques, j'ai besoin de personne. Mais pour les gens qui ne me le sont pas, eh bien, j'ai peut-être besoin de quelqu'un pour comprendre.
Bonjour, je m'appelle Olivia, j'ai 30 ans et je voulais savoir si on fait encore des sacs en peau de crocodile. Merci, au revoir.
Docteur Samuel Martin, vous êtes vétérinaire et vous dirigez justement la ferme aux crocodiles à Pierrelatte dans la Drôme. J'ai l'impression que la peau du crocodile est bien trop épaisse pour faire un sac, moi.
Alors ça, c'est justement tout le talent des tanneurs et puis des maroquiniers. Alors il faut savoir qu'en France, on a un excellent savoir-faire. On a des grandes maisons qui font ça et la planète entière vient nous acheter ces sacs en crocodile. Moi, j'aimerais plutôt dédiaboliser cette approche. Il faut savoir que les crocodiles ont failli disparaître justement à cause de la chasse et de la valeur de ce cuir. Et puis dans les années 70, ceux qui exploitaient cette peau ont tiré un petit peu la sonnette d'alarme en disant « Attention, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis de tuer la poule aux os d'or ». Donc, rapidement, on a mis en place un système de surveillance pour évaluer les populations restantes aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud. Et des biologistes ont mis en place un système qu'on a appelé le ranching. Et le ranching, ça consistait à aller dans le milieu naturel, prélever des œufs. Ensuite, on va faire incuber ces œufs de façon artificielle. Et puis, à l'âge de 3 ans, on relâche 20% de la production dans le milieu naturel. Et de ce fait, on arrive à la fois à faire du renforcement de population sauvage de crocodiles et d'autre part à alimenter une filière industrielle. Et ça, c'était un modèle qui était tout nouveau. On est typiquement dans une gestion, même si le vocable à l'époque de développement durable n'existait pas, raisonné, raisonnable et durable de la ressource naturelle. Voilà. Alors, c'est vrai que la peau de crocodile et l'exploitation du cuir de crocodile est souvent controversée, mais j'ai beau être à la fois un amoureux de ces animaux-là, à la fois je fais partie du groupe des spécialistes des crocodiles, donc qui dépend de l'Union mondiale pour la conservation de la nature, et nous, dans ce groupe, nous défendons cette approche d'utilisation censé raisonnable de la ressource naturelle.
Donc tout ce qui est excessif est stupide et tout ce qui ne l'est pas est envisageable, disons.
Et tout à fait, tout ce qui ne l'est pas est envisageable. Et on voit d'ailleurs tous les acteurs de la maroquinerie de luxe, de plus en plus, s'impliquent dans les programmes de conservation où ces œufs de crocodiles vont être prélevés dans des coins assez reculés. On a des belles expériences en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, où on détermine des quotas de prélèvement et on va dire, famille par famille, eh bien, tu as le droit de prélever 3 nids dans ton secteur, toi 4, on répartit ça au niveau de la communauté. Chaque œuf est racheté par les fermiers éleveurs 1 dollar, et grosso modo, une récolte d'une ponte permet de payer la scolarité pour un enfant pendant l'année. Donc les habitants finissent par considérer que, en fait, la présence de ces crocodiles, pour autant qu'on fasse attention, parce que ça reste des prédateurs, est plutôt un bienfait dans la mesure où c'est bien géré. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'exemples à allier à la fois conservation, développement sociétal humain, et puis exploitation. Voilà. Aujourd'hui, je vois mal un agriculteur donner 20% de sa récolte pour la protection de l'environnement qui prédate. C'est comme si on demandait à un céréalier de dire, bah voilà, t'as 20% de ton revenu, il part pour protéger les blaireaux. Je vois mal les céréaliers de la Beauce faire ça.
En écoutant le vétérinaire Samuel Martin, je me disais que finalement, il avait un peu la même démarche que Maître Temim entendu précédemment, c'est-à-dire qu'il défend des êtres qui, a priori, ne font pas pitié. Et c'est justement ceux-là qui ont précisément besoin d'être défendus. Les infos sur la ferme aux crocodiles, dont Samuel Martin s'occupe, et sur le site des Petits Bateaux.
Love is bad. Love is bad. Love is bad. Glass full, so I did, and I saw you. I saw you gleaming across the scene, across the room. It's all in you. I need the meaning when I see it all in you. Love is bad. Love is bad.
C'était Céleste sur France Inter, où vous écoutez les Petits Bateaux.
Je m'appelle Eliott, j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi les eaux deviennent en poussière.
Pourquoi les eaux deviennent en poussière, Eliott? Philippe Charlier, vous êtes médecin, mais vous êtes paléopathologiste, c'est-à-dire que vous travaillez sur les morts. Est-ce qu'il a raison, Eliott? Est-ce que les eaux deviennent en poussière?
Eliott a partiellement raison. Elliot, en fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Tous les os, tous les corps humains ne retournent pas en poussière. La grande majorité, oui, parce qu'un os, finalement, c'est quelque chose d'assez fragile. Mais parfois, on est entreposé, on est enfoui dans une terre, en fait, qui ne détruit pas les os. Une terre qui n'est pas assez acide, qui n'est pas assez humide, et qui, en fait, conserve les ossements. Et qui peut d'ailleurs conserver d'autres choses. On peut, quand on réouvre plusieurs années après une tombe, retrouver des morceaux de chair, plus ou moins momifiés. On peut retrouver des ossements, donc, mais aussi des poils, des cheveux, des ongles. Ça se conserve plutôt bien.
Mais qui sont en petit tas ou qui sont vraiment bien sur la personne bien
qui sont sur la personne, qui ne se sont pas en fait décomposés, mais qui sont restés en place. Et puis on retrouve aussi quelque chose de plus en plus souvent maintenant, ce sont les vêtements. Parce qu'on est enterré avec des vêtements synthétiques, donc des produits qui sont dérivés du pétrole et qui ne pourrissent pas. Et ça, on en retrouve de plus en plus quand on fait des exhumations de cadavres dans les cimetières actuels. Le polyester, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement solide. Quand on retrouve des morts dans les forêts, quand on les retrouve dans les fleuves ou ailleurs, ou dans leurs tombes, eh bien, toutes les zones qui sont en regard des vêtements sont complètement momifiées.
Ce que raconte le docteur Philippe Charlier me fait penser à cette proposition de l'ADEME, plante ton slip. L'ADEME vous propose de creuser un trou de 15 cm et de mettre dedans un slip blanc 100% coton, de reboucher le trou et d'aller voir, de redéterrer votre slip, il faut mettre un repère, 2 mois plus tard. Normalement, il ne devrait rester que l'élastique si la terre est bonne. Vous trouverez les explications un peu plus détaillées sur le site des Petits Bateaux. Quant à Philippe Charlier, son dernier livre paru chez Talendier s'appelle « Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel ». Je rappelle que Philippe Charlier, s'il est docteur en médecine, est aussi docteur en sciences et docteur en lettres. On peut supposer qu'il aime étudier. Il a donc étudié pas tant les fantômes auxquels il ne semble pas apporter sa foi, mais leurs adeptes. Il nous raconte les grandes figures et les grands mouvements qui, dès le début du XIXe siècle, ont conversé avec l'au-delà. Quelles que soient nos croyances personnelles, on apprend beaucoup de choses dans ce livre. Par exemple, un portrait intéressant d'Alan Kardec, fondateur du spiritisme, né en 1804, enterré au Père-Lachaise, sur la tombe duquel est écrit « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, tel est la loi ». Philippe Charlier nous présente aussi le célèbre astronome Camille Flammarion ou l'écrivain écossais Conan Doyle, qui a aussi écrit, pas seulement Sherlock Holmes, mais aussi écrit « Les faits sont parmi nous ». Après avoir décortiqué beaucoup de morts, Philippe Charlier a eu envie de décortiquer une certaine idée de la mort qui n'est peut-être pas la sienne ni la vôtre, mais peu importe. Ce n'est pas la polémique qui nous intéresse dans cette histoire du surnaturel, mais les informations. À propos d'informations, Clément Berman, Marjorie Devoucou, Eliane Gérard, Jean-Baptiste Audibert, Stéphane Combe, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à 19h30. Je vous invite à podcaster ou à réécouter ces petits bateaux par franceinter.fr, à suivre Jérôme Garcin et à masquer la plume consacrée à la littérature.